place publique. Le congé parental doit-il être étendu en Suisse? On en débat dans un instant. Une initiative propose 4 semaines pour les papas. Une commission des États va jusqu'à 2. Sans oublier des experts de la Confédération qui ont lâché un véritable pavé dans la mare lundi avec une proposition allant jusqu'à 38 semaines pour les deux parents. Le 23 septembre, le peuple suisse votera notamment sur l'inscription des voies cyclables dans la Constitution. On verra ce qu'un oui dans les urnes pourrait changer pour les amateurs de vélo. Enfin, nous allons recevoir Yvan Perrin en dernière partie d'émission. Nous tenterons avec lui de comprendre ce qui ne va plus dans l'UDC neuchâteloise, mais aussi plus largement au niveau des autres sections romandes touchées par plusieurs démissions dans leurs états-majors.
Jusqu'à 19h, place publique. Gabriel Devec.
Bonsoir à tous. La Suisse est à la traîne en matière de congé parental. Ce sont des experts mandatés par la Confédération qui le disent, si bien qu'ils ont proposé lundi un congé élargi à 38 semaines pour la maman et le papa. Actuellement, une mère a droit à 14 semaines de congé après la naissance de son enfant, 1 à 2 jours de congé payé pour le père, ça peut aller plus loin selon l'entreprise qui l'emploie. Mais tout cela pourrait changer. Les fronts bougent en effet au niveau politique. Hier, une commission des États a proposé 2 semaines de congé paternité, tandis qu'une initiative en propose 4. Au cœur du débat, cette question, est-ce que l'économie a les moyens de payer des semaines supplémentaires de congé parental sans nuire à sa compétitivité? On en parle avec nos deux invités. Mathias Kuert-Killer, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes responsable de la politique sociale chez Travail Suisse et vous dirigez l'association Congé Paternité à la base de l'initiative dont on va parler. Vincent Gigandet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous dirigez la Fédération des entreprises romandes de l'Arc Jurassien. Alors, Mathias Kuert-Killer, si on commence avec vous, on ne doute pas, bien sûr, qu'un congé parental étendu fait du bien et aux parents et à l'enfant. C'est quand même plus difficile d'imaginer que ça fasse du bien à l'économie, ou en tout cas que ce soit facile à mettre en place.
Bon, il faut dire qu'en Suisse, c'est clair, normalement on fait des petites pas politiques. Peut-être on ne peut pas introduire dans une fois un tel congé parental. C'est pour ça que nous, on a proposé de faire un congé paternité comme premier pas. Là, c'est plus facile à introduire, mais l'objectif des deux, c'est le même. Si on regarde maintenant, on a beaucoup de femmes bien formées, on a une pénurie de la main d'œuvre. Si les femmes, ils savent que aussi les hommes, ils prennent de la responsabilité pour la famille, pour les enfants, ils sont prêts à s'engager plus dans la vie économique, c'est-à-dire peut-être ils vont avoir un degré d'occupation plus élevé, donc ça signifie plus de productivité, mais aussi finalement plus d'impôts pour l'État. Donc ça peut finalement être un bon investissement aussi pour l'économie.
Vincent Gigandet, la Suisse est en queue de peloton, hein, si on la compare avec d'autres pays, par exemple de l'OSCE, comme l'Allemagne, par exemple, qui propose 48 semaines. Pourquoi notre pays n'arriverait pas à faire mieux?
L'OCDE, oui, sans doute.
Pardon.
Sans doute, toi aussi, que l'on peut faire mieux. La proposition, cependant, qui est faite là, touche un congé parental, hein, qui touche à la fois les pères et les mères, et un congé qui est important, hein. Et nous vivons, comme vous le savez, dans un pays où le coût de la vie est élevé, où les salaires sont élevés, où les prestations sociales le sont aussi et le sont de qualité, et que tout cela a un coût, et d'engager des congés de cette ampleur-là pose très certainement des problèmes sérieux à nombre de petites et moyennes entreprises. Par rapport à l'Allemagne, ce que je peux rajouter aussi, ce qu'il est bon de rappeler, c'est que nous sommes en Suisse hors de l'Union européenne et nous sommes confrontés également à la problématique du taux de change, et qui, à certains moments, comme on les connaît actuellement, nous pose aussi des problèmes de compétitivité en matière de coûts. Maintenant, sur le fond, ce que je pourrais ajouter à ce stade, c'est que d'augmenter pour une mère de famille le congé qui est de 14 semaines à 3 mois, hein, après ces 14 semaines encore, je ne vois pas très bien ce qui pourrait inciter des entreprises à les engager et à ces mères de famille d'augmenter leur taux d'activité, puisque c'est limité dans le temps et sur une seule et même année.
Mathias Kurtkiller, on l'a entendu, apparemment ça peut être très lourd à gérer hein, pour des PME, le mot a été lâché, les petites entreprises, moyennes entreprises. Et si on allait au bout de la logique, en suivant des pays par exemple comme l'Allemagne, est-ce que vraiment ça faciliterait l'employabilité des femmes? Est-ce que ça les inciterait à s'engager plus?
Je pense que l'important c'est qu'on ne parle pas d'un congé maternité prolongé, il s'agit de répartir les responsabilités, c'est-à-dire il faut en tout cas avoir un temps réservé pour les pères, et c'est dans toutes les solutions modernes, c'est prévu comme ça aussi dans cette proposition de la commission familiale. Là, c'est clair, si vous faites en quelque sorte les deux genres ont un désavantage, ils ont une absence certes, pendant un certain temps du marché du travail, donc on a tous les mêmes conditions. Après, je crois ce qui serait pas bien, c'est de dire oui, il faut prolonger le congé maternité pour à 6 mois comme ça. Là, ça peut poser des problèmes et les hommes, ils travaillent de toute façon de nouveau à 100%. Mais si vous me permettez, j'aimerais bien dire quelque chose sur les PME. On constate bien que pour le moment, sans loi, c'est seulement les grandes entreprises qui ont introduit un congé paternité, par exemple. Et c'est exactement avec un financement solidaire par une assurance sociale que aussi les PME, ils peuvent se permettre après d'introduire aussi un congé paternité. Pour le moment, ils ont plutôt un désavantage sur le marché parce que les grands, ils peuvent le payer eux-mêmes. Et nous, on aime bien que toutes les entreprises, ils ont les mêmes possibilités. C'est clair, c'est une des nécessités de nos jours. Et donc, il faut aussi une solution qui est financée solidairement, pas seulement par les employeurs, aussi par les employés. Toutes les solutions proposées sont financées par l'APG. Donc, c'est des contributions comme à l'AVS que à 50% aussi les employés financent.
Vincent Gigondet, c'est mettre finalement les PME sur pied d'égalité, par exemple avec les enseignes de la grande distribution qui proposent plusieurs semaines, grâce à un financement solidaire, en tout cas en termes de financement, cette solution d'étendre le congé parental ou de créer ce congé paternité semble tout à fait faisable.
Alors il est vrai que certaines grandes entreprises, ou même de moyennes, hein, offrent un congé paternité, mais qui est sensiblement plus réduit que ce qui est proposé dans ce congé parental de 38 semaines. Et ça peut être un élément, mais c'est un élément parmi d'autres dans le choix de l'employeur ou de l'emploi que la personne va rechercher. Au niveau des coûts, si je compare à l'initiative du congé paternité de 4 semaines, donc si on nous dit qu'il va coûter 420 millions, si je fais une proportion par rapport aux 38 semaines qui nous sont proposées ici, grosso modo, ça va nous coûter quand même plusieurs milliards de francs. Alors certes, le financement est paritaire, mais à côté de ça, il y a un certain nombre d'autres projets ou d'initiatives qui arrivent sur la table aussi et qui prévoient aussi des augmentations ici ou là. Je pense par exemple à l'augmentation des cotisations AVS, je pense aussi au rallongement de l'allocation de maternité en cas de séjour prolongé pour les nouveau-nés, je pense au paiement du salaire pour la prise en charge des proches qui sont malades ou accidentés, et à futur plus ou moins proche quand même une réforme de l'AVS et une réforme du deuxième pilier.
Place publique. Gabriel Devec.
Faut-il étendre le congé parental? Plusieurs propositions sont sur la table. Il y a cette initiative qui propose 4 semaines, une commission des États qui en propose 2, ou encore cet avis d'experts de la Confédération qui propose carrément 38 semaines pour le père et la mère. Alors, Mathias Kurtkiller, quand même une question. La Confédération s'est opposée à votre initiative sans proposer de contre-projet, disant que c'était nuire à la compétitivité des entreprises et préférerait que l'on mise sur l'accueil extra-familial. Est-ce que ce n'est pas ça la solution la plus pragmatique?
Je pense ce qui compte pour une famille, c'est la fiabilité, et c'est tout un paquet, c'est l'accueil extra-familial, c'est des congés, c'est la situation de logement, etc. Donc il ne faut pas jouer l'un contre l'autre. D'ailleurs, le Conseil fédéral a dit ça, mais en même temps, il a rejeté de prolonger un programme d'accueil extra-familial. C'était après le Parlement qui a réintroduit, donc c'est un peu pénible du Conseil fédéral de dire ça et en même temps faire autre chose. Donc, pour nous, c'est clair, il faut ce congé, c'est une nécessité, et c'est bien pour les familles, mais pas seulement pour les familles, c'est aussi payable pour l'économie, et c'est un bon investissement pour l'économie. Si on regarde les proportions, c'est même pas 1% de ce qu'on paye pour l'AVS, donc 0,05% de chaque salaire. Ça coûte un congé paternité de 4 semaines. Donc, de dire que ça, c'est un danger pour notre concurrentialité, c'est quand même un peu osé, je dois dire.
Vincent Gigandel, rapport d'expert de la Confédération, cite plusieurs études scientifiques liées notamment aux expériences menées dans les pays de l'OCDE. Il apparaît quand même qu'un congé parental étendu à plusieurs dizaines de semaines peut avoir de très bons effets, qui sont peut-être pas forcément palpables, mais qui sont bien réels, comme une bonne ambiance au travail, comme des enfants mieux éduqués, qui grandissent dans un univers plus paisible. Du coup, les mamans sont aussi moins déprimées, il y a des coûts sociaux en moins. Est-ce que, comme le dit Mathias Kurt-Killer, ce n'est pas un bon investissement? Est-ce qu'il ne faut pas tenter de se plier en quatre pour réussir ce pari, vu qu'apparemment les effets sont plutôt bons?
Alors, je ne doute pas que si les personnes sont rassurées de savoir que leurs enfants sont en bonne main, et en particulier, et plus particulièrement encore de leurs parents, c'est fort appréciable. On ne le remet pas en cause. Mais comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, je pense que la solution devrait être trouvée plutôt dans les structures d'accueil familial, voire également dans la flexibilisation du travail. Si je prends l'exemple de nos institutions, j'ai 20 collaborateurs, il y a 10 collaboratrices parmi celles-ci, donc c'est la parité. Même plus, pendant 13, et sur ces 13 collaboratrices, 10 occupent un poste à temps partiel. Alors c'est vrai que ce n'est pas toujours évident, mais avec un petit peu d'effort, et je crois que tous les employeurs y consentent, on peut aménager là où c'est possible des temps de travail qui correspondent aux besoins des collaborateurs et des collaboratrices, et des collaborateurs aussi, parce que c'est aussi un choix familial que de choisir si c'est le père ou la mère qui réduit ou maintient son taux d'activité comme il était auparavant, avant la naissance des enfants.
Le débat est lancé, on va bien sûr en reparler, puisque Mathias Kurt-Killer, jusqu'à preuve du contraire, vous allez maintenir votre initiative pour un congé paternité, c'est-à-dire qu'il y aura encore d'autres débats. On vous remercie infiniment, messieurs, d'être venus dans Place Publique. On vous souhaite une bonne soirée.
Merci de même. Merci.
Place Publique.
Faut-il inscrire ou non les voies cyclables dans la Constitution? Les Suisses voteront le 23 septembre. Il s'agit de mettre les pistes cyclables sur pied d'égalité avec les chemins pédestres. La Confédération aurait donc un rôle de coordination et de soutien et elle serait tenue de remplacer toute voie dédiée au vélo qu'elle doit supprimer. Ce scrutin est un contre-projet à une initiative de plusieurs associations et de partis. Leur but était d'obliger la Confédération à promouvoir les voies cyclables et depuis, l'initiative a été retirée et on vote sur une version moins contraignante. On en parle avec vous, Mathias Rüttisauer. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous dirigez ProVélo Bilbienne. Alors, on est d'accord, il s'agit d'une légère adaptation, si on regarde le texte, une légère adaptation de la Constitution, qui est quand même notre texte fondamental. Mais en quoi c'est important? Qu'est-ce qui va changer?
Mais vous voyez, en fait, jusqu'à l'instant, le réseau cycliste, il est genre comme un fromage émentalois. Il y a des cantons, des communes, et puis c'est l'objectif d'homogénéiser et puis de mettre des règles claires sur tout le pays. Mais il faut clairement dire que c'est pas l'objectif de cette adaptation de mettre tout le pouvoir vers la Confédération. C'est vraiment les compétences restent au canton.
Alors, que doit faire la Confédération, du coup ?
Ben, par exemple, à l'Office fédéral de à l'OFRU, à l'Office fédéral de route...
L'Office fédéral des routes, absolument, oui.
Oui, l'Office fédéral des routes. Il s'est prévu de créer des emplois et des spécialistes qui se mettent à la planification un peu à long terme, à moyen terme. Qu'est-ce qu'il faut améliorer au niveau réseau cycliste, au niveau national? Il y a des trous, il y a des choses à compléter. Et puis, c'est vraiment, ça crée des bases. Des bases de planification pour qu'on aille les mêmes, finalement, que le vélo ait les mêmes réseaux, comme par exemple les réseaux de randonnée. Et puis, parce que vous imaginez que les réseaux de randonnée, ils seraient non plus homogénéisés au niveau national, je crois. On ne peut même plus imaginer ça.
Alors, ça veut dire que la Confédération pourrait, le cas échéant, contraindre tout de même, pour que le réseau de voies cyclables soit cohérent. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui craignent qu'elle se mêle de ce qui ne la regarde pas ? Vous l'avez dit, c'est du ressort des cantons et des communes qui sont proches du terrain, qui savent où les arbitrages sont en faveur plutôt du vélo ou de la voiture. Est-ce que vous craignez pas que la Confédération prenne trop la main dans ce genre d'histoire ?
Non, je crois que c'est évidemment la contre-proposition de conseil fédéral qu'on prouve l'eau finalement à donner son accord et retirer l'initiative, que exactement pour ça que c'est écrit très clairement dans le point numéro 3, dans l'article 88, elle respecte à cet égard les compétences des cantons. Donc ça reste finalement dans les compétences des cantons de prendre des décisions finaux. C'est la Confédération, elle donne les grandes lignes.
Alors, plus de pistes cyclables, c'est évidemment favoriser le vélo, c'est aussi essayer de désengorger les bouchons dans les agglomérations. C'est ça votre calcul ?
Vous voyez, c'est clair, c'est augmenter, si possible, le nombre de personnes qui circulent en vélo, surtout dans les agglomérations, c'est clair, on ne va pas se déplacer dans les montagnes, finalement les gens ne vont pas prendre 50 km avec le vélo pour aller se rendre au travail, mais on favorise spécialement le tourisme et le loisir et les sports.
Est-ce qu'on ne va pas vers une bataille programmée avec d'autres utilisateurs de la route ? Je pense bien sûr aux automobilistes. On l'a encore appris récemment, les voitures qui sont toujours plus larges, toujours plus lourdes, et avec des demandes, des velléités pour qu'on agrandisse les routes, pour que ce soit plus sûr. Est-ce que si on fait la promotion des voies cyclables, on ne va pas vers une bataille entre ces deux mobilités ?
Non, je crois qu'on n'est pas du tout dans le radical pro vélo. Pour nous, c'est vraiment important que le vélo, les pistes cyclables soient sûres et puis sont favorables pour les cyclistes, aussi pour les familles qui font des excursions le week-end, pour les touristes. Et puis une planification coordonnée permet d'aménager des voies cyclables, sans qu'il y ait trop de coûts supplémentaires.
Vous mettez en avant aussi un argument économique auquel on pense peut-être moins, mais le cyclotourisme, ça rapporte de l'argent, vous le chiffrez à 67 millions de francs par année, notamment le VTT en région de montagne, c'est le salut peut-être de ces stations qui sont confrontées au réchauffement climatique.
Oui, notamment pour les... Je vois le point pour les VTT, c'est clair, c'est l'écotourisme, c'est un facteur important, notamment dans des régions, avec un tourisme doux comme au Jura. Et puis, on voit vraiment beaucoup d'avantages aussi pour les régions du Jura.
Un mot quand même de Bienne, c'est votre ville. Bienne, on en voit beaucoup des cyclistes, même un peu plus qu'ailleurs, alors pas autant qu'au Danemark ou aux Pays-Bas. Mais néanmoins, Bienne, est-ce qu'on doit considérer cette ville comme un bon exemple à suivre ?
Mais peut-être vous le voyez, Bienne, c'est assez plat, donc ce sera considéré, ce sera promu pour être une ville cycliste. Mais bon, il ne faut pas oublier, Bienne est aussi la partie de voiture de M. Scherer qui était fondée à Bienne. Donc les progrès qui se font, c'est négocié dur. Et puis on aurait beaucoup plus de possibilités, vu les exemples dans les pays nordiques, et on n'est pas du tout à ce point-là sur Bienne. Il reste quand même quelques pistes cyclables, mais majoritairement, c'est l'ensemble des automobilistes, du transport public et les vélos.
Merci.
Il restera énormément de progrès à faire, ça c'est clair.
Des progrès à faire, et cette votation du 23 septembre pourrait y contribuer, c'est votre avis. Si le peuple suisse dit oui, on vous souhaite une bonne soirée, une bonne suite de campagne. À bientôt, au revoir.
Merci, au revoir, bonne soirée.
Place publique.
À un an des élections fédérales, l'UDC enregistre plusieurs démissions dans ses sections cantonales. Tout a commencé la semaine dernière avec celle de Stéphane Moser, de la présidence de l'UDC neuchâteloise, déjà très affaibli par des luttes intestines. On suivit les annonces des retraits des présidents des sections fribourgeoises et valaisannes, sans oublier la démission du chef de campagne de l'UDC pour la Suisse, Kevin Granger. Alors, hasard du calendrier ou malaise plus profond à un an des élections fédérales? On en parle avec vous, Yvan Perrin. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes fondateur de l'UDC neuchâteloise, ancien conseiller national et conseiller d'État neuchâtelois. Vous avez aussi été vice-président du Parti national. Alors tiens, je vous soumets l'avis de la vice-présidente actuellement, Célina Modru. Elle assure qu'il s'agit d'un hasard de calendrier. Alors est-ce que malgré tout, il ne faut pas y voir un problème plus profond, le signe d'une forme de passage à vide en Suisse romande? Et pour quelle raison?
Alors, étant d'un naturel optimiste, je pense que c'est effectivement une question de hasard de calendrier. Hasard peut-être pas tout à fait. Nous arrivons gentiment dans la ligne droite en vue des élections fédérales 2019 et il est clair que les personnes qui pensent ne pas avoir le temps ou l'énergie pour nous mener à cette échéance font bien de démissionner maintenant. Comme ça, ça nous permet de préparer l'équipe et il est clair que les personnes qui maintenant entreront aux responsabilités, les assumeront jusqu'à fin 2019.
Donc vous admettez quand même qu'en politique, c'est un mauvais signal. Une année, c'est quand même court.
C'est court. Simplement, il faut voir que le calendrier qui nous attend nous est favorable. Les thèmes de l'UDC vont devenir cruciaux. Vous avez parlé du 23 septembre. Nous, on parle plutôt du 25 novembre avec l'initiative pour l'autodétermination qui vise à savoir qui en Suisse commande du citoyen ou de Bruxelles. On sera, durant cette période, en pleine récolte de signatures contre le durcissement de la loi sur les armes voulue par Schengen. Donc, ce sont des thèmes profondément UDC sur lesquels, même s'il y a ici ou là quelques mésententes personnelles, nous sommes unanimes.
Vous êtes unanime, mais ces campagnes, elles ont lieu maintenant ou presque. C'est le moment où il faut agir. Or, il n'y a plus de capitaine sur le bateau. Est-ce que vous ne risquez pas de passer tout simplement à côté même de ces campagnes qui vous mettent plutôt dans une situation favorable, UDC seul contre tous?
Non, je ne suis pas inquiet du tout. C'est un thème, même si d'aventure nous étions, entre guillemets, un peu mou, nos adversaires donneront le battage médiatique nécessaire, puisque si on prend le 25 novembre, on a déjà tout le monde économique et tout le monde politique contre nous. Je crois que même si effectivement nous devions ne pas être au top, nous serons quand même là, et je suis convaincu que d'ici là, nous serons au top, parce que c'est effectivement un sujet qui fédère tout le monde au sein de l'UDC, même si ici ou là, on a quelques membres qui ne partiraient pas en vacances ensemble, sur ce sujet-là, ils seront unis.
Mais est-ce que le climat actuel, le contexte politique actuel est favorable à des positions comme celles qu'affectionne l'UDC, plus tranchées que d'autres? On le voit avec l'immigration de masse, seule une solution dite light a vu le jour, puis après des discussions quand même très animées, très complexes. On voit que la conjoncture économique repart, que la Suisse est moins favorable aux étrangers, que la crise migratoire finalement nous impacte bien moins que d'autres. Est-ce que c'est pas un climat qui va nuire à votre rhétorique plutôt tranchée et un peu catastrophiste, faut le dire?
Non, je ne crois pas. Alors, en tout cas, pas de catastrophisme, juste un constat réaliste et désabusé de la situation. Vous citez le 9 février, sa version light. Pourquoi avons-nous une version light? Parce que les négociateurs suisses sont allés chercher leurs instructions à Bruxelles. Et Bruxelles a dit, non, finalement, vous, les petits Suisses, vous avez la démocratie directe, nous, on a la commission, alors vous faites comme on dit. Et malheureusement, nous avons une classe politique qui est tétanisée à l'idée de déplaire à ces messieurs de la Commission européenne. Enfin, messieurs, dames, et bien évidemment, ils reviennent de Bruxelles en disant « Ouh là 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 là, ils sont de mauvaise humeur, faut accéder à leurs requêtes », ce qu'on fait.
Alors, pour expliquer cette crise dans certains états-majors, ou ces démissions dans certains états-majors des sections romandes, on a demandé l'avis du politologue à l'Université de Lausanne, Georg Lutz. Qu'est-ce qu'il en pense? Alors, pour lui, l'UDC paye le prix d'une forme de radicalisation qui dissuade plus d'une ou plus d'un à s'y engager. On l'écoute.
Il y a plusieurs raisons. Une, c'est qu'il y a des personnes modérées, compétentes, qui pensent à faire une carrière. Et puis, quand ils veulent faire une carrière politique, ils pensent pas nécessairement à la faire à l'interne de l'UDC, vu que le parti a quand même une image beaucoup plus radicale que l'ancienne UDC qui existait déjà dans différents cantons, y compris dans les cantons romains comme Vaud et Fribourg. Donc les perspectives de carrière
d'une côté, ils sont bons pour certains postes, mais surtout pour les postes qui dépendent de l'élection majoritaire. Donc, les conseillers d'État, les conseillers des États, là, le parti a beaucoup de difficultés à faire passer leur candidat par une majorité des électeurs.
On a beaucoup parlé de la génération Bleu-Chair, de la bleu-chérisation de l'UDC, qui a fait émerger aussi dans le sillage pas mal de figures en Suisse romande. Est-ce que c'était le chant du cygne de ce parti?
Oh, c'est la personnalité de Bleu-Chair, et puis il y a les positions qu'il a poussées, qui a créé une nouvelle image du parti, qui a deux côtés. D'une côté, c'est la raison pour laquelle le parti est devenu le plus fort parti de la Suisse. Il faut se souvenir que dans les années 90, c'était un petit parti, pas présent dans beaucoup de cantons, y compris des cantons romands. Mais l'autre côté de cette médaille, c'est qu'il y a une radicalisation du parti, donc le parti est bougé à droite. Donc pour les électeurs, mais aussi pour des personnes qui aimeraient entrer en politique, qui sont plutôt modérées, le parti est devenu moins attractif.
Yvon Perrin, vous êtes en accord avec cette analyse?
Non, ce n'est sans doute pas une surprise. Chaque fois qu'on a voulu faire de l'UDC demi-sel, nous avons perdu. Si nous sommes reconnus comme compétents dans un certain nombre de domaines, c'est par rapport à la clarté de notre débat, de nos positions. Et si on veut si une personne qui désire faire carrière choisit un parti à quatre auberges, il y a le PLR ou le PDC. Mais évidemment, si elle souhaite défendre des convictions et non pas des ambitions, c'est l'UDC.
Donc vous ne vous remettez pas finalement en question par rapport à ce problème de gouvernance au sein du parti, en tout cas dans certaines sections romandes?
Non, les thèmes demeurent. Et nous avons lancé initiative sur initiative. Elles passent de plus en plus souvent devant le peuple et les cantons. Elles sont ruinées par le Parlement et le Conseil fédéral. Et on est sans arrêt en train de revenir sur les mêmes thèmes, parce qu'à part l'UDC, aucun parti politique ne souhaite les traiter et trouver les solutions que les problèmes demandent.
En Suisse romande, toutes les sections ne sont pas en crise. Il y a l'exemple du Jura bernois, qui est une exception notable. Je vous propose d'écouter à ce propos une de ses élus. Il s'agit d'Anne-Caroline Graber. Elle est députée au Grand Conseil bernois.
Vous savez, ce n'est pas faire preuve de forfanterie que de dire que l'UDC du Jura bernois va très bien. C'est le premier parti du Jura bernois. Et puis, il y a plusieurs causes à énoncer. Tout d'abord, l'UDC du Jura bernois comporte plusieurs personnalités politiques qui sont connues et qui présentent une certaine envergure. Ensuite, l'UDC du Jura bernois a une position qui est très claire, et tous ses membres également, à propos d'une question importante dans la région qui est la question jurassienne. Tous les UDC sont clairement antiséparatistes, et ça rencontre un écho au sein de la population du Jura bernois, dont je rappellerai que à plus de 70%, elle est également antiséparatiste. Donc ça, c'est un facteur assez important, si vous voulez, cette convergence ou congruence entre une position très claire de l'UDC s'agissant d'un thème important, et puis la position de la population de la région s'agissant du même thème. Et puis ensuite, vous savez, dans tous les partis politiques, il y a des différentes ailes qui coexistent. Et s'agissant de l'UDC, on peut mentionner plusieurs courants, par exemple les libéraux conservateurs, qui sont souvent d'inspiration chrétienne. Il y a les nationaux populaires. Ensuite, il y a des représentants traditionnels des milieux de l'agriculture. Il y a des représentants des PME. Mais ça, c'est surtout en Suisse alémanique, aussi des propriétaires et des dirigeants de grandes entreprises. Et puis, on peut dire qu'au sein de l'UDC bernoise, et plus particulièrement au sein de l'UDC du Jura bernois, ces différents courants que je viens de mentionner, bon, il n'y a pas tellement de grands industriels chez nous, donc les quatre premiers courants coexistent vraiment en assez bonne intelligence et surtout se respectent beaucoup mutuellement. Et ça, c'est peut-être un petit peu moins le cas des UDC d'autres cantons romands. Donc ce respect mutuel entre les différentes ailes de l'UDC est particulièrement marqué à l'UDC du Jura bernois. Et puis, on peut aussi ajouter que, vous savez, la nature humaine, elle est présente partout, mais dans certaines sections romandes, il semble qu'on a parfois un petit peu souffert d'une guerre des égos qui est toujours préjudiciable. Et ça, c'est un phénomène auquel on échappe relativement pour l'instant, encore une fois, dans le Jura bernois.
Et en matière de crise des égos, Yvan Perrin, l'UDC neuchâteloise n'est pas en reste. On pense notamment à ce qui s'est passé avec Raymond Clotu, exclu du parti pour des raisons de cotisation. Est-ce qu'il n'est pas quand même, au vu des enjeux, temps de revenir à enterrer la hache de guerre, à vous rabibocher au risque, sinon, de perdre le siège au Conseil national que vous visez d'ailleurs?
Non, je ne crois pas. Je crois que Raymond Clotu a pris une décision. Cette décision lui a valu de quitter nos rangs. Nous sommes le parti de la responsabilité. Il assume son choix. Et s'il a souhaité s'en aller, il avait tout à fait le droit. Simplement, vous ne pouvez pas prétendre être UDC une année sur quatre, c'est-à-dire l'année qui vous vaudrait une éventuelle réélection. Ça ne va pas.
Donc ce n'est pas à l'ordre du jour, on l'a bien compris. Un élément intéressant soulevé à l'instant par Anne-Coraline Graber, c'est le contexte particulier du Jura bernois avec la question jurassienne qui fédère les membres de l'UDC. Est-ce que ce n'est pas aussi votre problème? C'est la cohésion de la population neuchâteloise qui peut peut-être... qui manque et qui se ressent aussi dans votre parti?
Je crois que la question au bas agite tous les partis.
Mais il y a encore plus de mal à l'UDC ou c'est pas ça?
Non, je ne crois pas que nous ayons plus de mal que d'autres formations. On voit assez souvent des clivages au bas qui transcendent très largement les partis. Et si vous regardez les dernières manifestations qu'il y a eu à Chaux-de-Fonds, notamment sur la question hospitalière, tous les partis étaient unanimes pour dire... blanc à Chaux-de-Fonds, et tous les partis étaient tout aussi unanimes ici à Neuchâtel pour dire noir. Donc là, c'est vraiment le clivage au bas, le poids de l'histoire qui joue sans doute encore un très grand rôle.
Alors vous êtes le parti de la responsabilité, du coup pas question de rétablir Raymond Clotu, mais vous êtes donc le parti des égos aussi et des disputes?
Il arrive parfois effectivement que au sein de gens qui sont là pour la cause, on en trouve qui sont là pour leur cause. Et ça pose problème, bien évidemment. Mais
c'est votre cas aussi, ou au contraire, vous faites preuve de dévouement en revenant toujours à disposition?
Alors, sans vouloir me jeter des pétales de rose, je pense avoir quand même beaucoup donné pour cette section. Je rappelle que lorsque le petit noyau que nous constituions, notamment avec Walter Wilner, s'est mis en route pour lancer cette section, c'était un sujet de moquerie dans l'ensemble du landerneau politique neuchâtelois. Un cacique d'un parti avait même salué l'engagement d'une psychologue à la police neuchâteloise, dans la mesure où elle aurait fort à faire avec le bas du front qui présidait la section. Donc, il fallait vraiment, vraiment être motivé, il fallait vouloir donner. Et je pense que toute l'équipe qui avons accompagné ce parti jusqu'à aujourd'hui, nous pouvons dire que c'est vraiment la cause qui nous a valu de nous engager. Après, si effectivement nous avons pu obtenir des postes, j'espère que nous le devons quand même un peu à notre travail.
Et en deux mots, il y a une semaine, on apprenait que vous étiez à disposition du parti pour le présider, à défaut de combattants plus jeunes. Où en est-on? Votre appel a-t-il été entendu?
Pas encore, mais je ne suis pas dans le secret des dieux. Peut-être que des candidats, des candidates se sont annoncés, je l'espère sincèrement, parce que je ne voudrais pas qu'on donne l'impression qu'on fait du ping-pong avec Stéphane Moser et la présidence.
Yvan Perrin, merci de nous avoir rejoints dans Place Publique pour évoquer donc ce qui se passe du côté de l'UDC neuchâteloise, mais aussi plus largement dans d'autres sections romandes. On vous souhaite une bonne soirée. On vous dit à bientôt.
Bonne soirée, merci à vous.
Place Publique.